Donc, je laisse la parole à Martine.
Allez, j'y vais. Vas-y. Bonsoir à tous. Donc, je fais partie de l'association Jamais sans toi, une association qui existe depuis un an et demi maintenant, et qui en fait s'est construite, on va dire, à partir d'un vécu, voilà, d'amis qui se sont retrouvés à loger une famille qui était en OQTF, c'est-à-dire en obligation de quitter le territoire. Et comme on était très naïfs et qu'on ne connaissait pas du tout ce monde des migrants, on était très apeurés, la famille aussi, on les a cachés, quoi. Nous, OQTF, ça voulait dire pour cacher les gens. Donc on les a cachés et on peut imaginer comment c'est une vie de gens qui se cachent hors d'une ville, c'est bon, une situation très difficile, et les gens qui ont hébergé cette famille-là voilà, ont vécu un moment assez dur, puisque ben, voilà, c'est une rencontre aussi entre deux cultures, dans un lieu, dans une maison, avec une famille, et puis ces personnes-là avaient des enfants. Bon bref, une vie, une rencontre humaine très intéressante, mais aussi une difficulté dans le quotidien. Et après mûre réflexion avec d'autres personnes qui gravitaient autour de cette famille, on s'est dit qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment ça se passe. Alors Momo Show, je crois, avait commencé, existait déjà, et il y avait leur expérience, et on s'est dit peut-être qu'il y a aussi un autre moyen de trouver à ces gens un lieu pour vivre, parce qu'on pense que l'intégration, elle passe aussi par un lieu à eux, pour que déjà la famille puisse vivre vraiment ce qu'elle a à vivre dans la famille, et puis un toit, de quoi manger, et être autonome le plus indépendant possible. Alors il y avait des expériences menées dans d'autres lieux en France. Béziers, bon, je ne sais plus où ça en est maintenant avec la nouvelle mairie, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas cherché. Clermont-Ferrand, je crois que ça continue encore. Bon, d'expérience en fait, d'associations, d'institutions où il y avait les CADA et toutes les institutions dont on parlera sûrement après, parce qu'elles font un super boulot, Secours Populaire, Emmaüs, Resto du Cœur, j'en oublie, Secours Catholique, voilà. Alors CIMAD dans le côté plus aide institutionnelle, on va dire, là je parlais plus de l'aide sociale, on va dire. Et donc on s'est dit, bon, mais on va essayer de... Donc c'est ces groupes-là, dans ces lieux-là, il y avait les institutions qui étaient bien entremêlées et qui proposaient, même le Conseil général de Clermont s'était engagé, proposait des logements. Alors on s'est dit, ben, pourquoi pas chez nous, allons-y. Et voilà, et donc Jamais sans toi naît l'an dernier avec un logement, et petit à petit, là je sais plus où on en est tellement ça va vite, mais on doit avoir 7 familles. Une, ouais, deux, enfin il y en a 3, on va dire.
Et puis d'autres qui vont arriver en 2016.
Donc en fait, Jamais sans toi a commencé par une, deux familles au niveau de la communauté sur Marciac-Vallon. Et puis on a créé, il y a des antennes qui se sont créées parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ben, nous, on sent l'envie et on est capable d'accompagner des familles. Donc il y en a sur Entraigues, donc il y a une petite, il y a une antenne donc à Entraigues de Jamais sans toi. Il y en a une à Decazeville, il y en a une sur Odèze, il y en a une Villefranche de Rouergue. Voilà donc. Et donc l'idée aussi, c'est de se dire que ça ne suffit pas d'avoir un toit. De les aider, on va dire, socialement, à faire des liens avec toutes les institutions qui gravitent autour de chez nous. Mais c'est les accompagner, parce que quelquefois, ils ne parlent pas français. Ils ont besoin de connaître aussi la culture de notre pays. Et donc, forcément, quand une antenne se crée, il y a tout un réseau d'individus autour. Et parmi les gens qu'il y a là, je crois qu'il y en a pas mal qui sont investis, soit à Momo Show, soit à Jamais sans toi. Il pourrait prendre la parole autant que je la prends, c'est que, ben voilà, on est sur Marciac, je sais pas, une vingtaine à être actifs au sein de ces deux familles. Enfin, les familles sur Nus et Marciac, et voilà, il y a des plannings qui s'organisent pour accompagner les personnes, il y a tout ça, mais l'idée, c'est qu'elles s'intègrent de plus en plus, et ça passe effectivement par la langue. Par l'école aussi, quand il y a des enfants. Et bon, imaginez quoi, comment ça peut être une famille qui n'a pas les moyens financiers et qui, tous les jours, va essayer de chercher des moyens pour survivre. Donc les institutions nous aident beaucoup. et puis des donateurs, puisque voilà, Jamais sans toi s'est créé aussi avec, avec le fonctionnement de donateurs. Donc l'idée, c'était de partir sur 100 familles. S'il y a 100 personnes qui donnent 5 euros, ça correspond à 500 euros, on pourra loger...
Par mois, 5 euros par mois.
Oui, oui, je précise.
Tous les mois.
On est parti sur un loyer de, on est parti sur un loyer de 500 euros avec les charges comprises. Bon, on les dépasse pour certains cas, mais bon, l'idée, c'était ça. Et donc, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait avec je ne sais plus combien de donateurs. Mais bon,
100,
plus de 130 donateurs. Alors, bien sûr, il y en a qui donnent plus. Bon, voilà. Ça fonctionne. Donc, je crois qu'il y a un petit prospectus par là donc, qui est présent. Si vous voulez participer,
le petit dépliant
de
bleu.
Quelque manière que
vous
ce
pouvez
soit.
Le brandir là pour qu'on puisse le retrouver. Voilà, voilà, mettez,
donc,
il est là.
Soit financièrement.
Je suis habitué à brandir.
Donc, l'association est d'intérêt général. Donc, si vous payez, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez des impôts. Donc, vous pouvez. Voilà, avoir des réductions de 66%, je crois.
Ouais.
Voilà, donc c'est pas rien. Si vous donnez 200 euros, ben, ça veut dire que en fait, vous payez que 80 euros, je crois, par mois.
Le tiers.
Voilà, le tiers. Donc ça, ça peut être intéressant. Bien sûr, ça, l'argent ne suffit pas. Il faut de la solidarité, il faut de l'humanité. Et donc, quand on n'a pas d'argent, on peut donner un peu de soi, de son temps. Et ça, c'est super important. Donc voilà pour l'info. Le matériel, alors, bah, on arrive à se débrouiller, mais c'est pareil. Hein, souvent, régulièrement, il y a une liste qui circule sur Internet quand on a besoin de matériel et ça fonctionne très bien. Franchement, moi, si j'avais un truc quelque chose à proposer ce soir, parce qu'on est tous engagés plus ou moins dans cette histoire avec ces migrants-là, c'est que... Ben, on fasse quelque chose encore de plus important et se dire comme proposait Michel, c'est-à-dire une famille, une personne dans un village, c'est faisable. Donc voilà, il faut que ça mûrisse, mais il y a moyen parce qu'on n'a pas d'autre solution. Les politiques. Bon là, ça bloque, de plus en plus de murs se construisent, de plus en plus de frontières se ferment, alors que logiquement... Après les lois économiques sur la libre circulation des marchandises, ça marche bien. Les humains, ça passe pas. Donc, on n'attend plus rien des politiques par rapport à ça. Donc, allons-y, quoi. Je crois que par rapport à Jamais sans toi, Momo Show, ben voilà, on montre que c'est possible. Légalement, on n'est pas dans les clous, mais on s'en fout.
Martine, il faut peut-être expliquer qu'en fait, il s'agit de familles qui sont déboutées du droit d'asile. Donc, ce n'est pas des Syriens. Là, on voit aussi qu'il y a des projecteurs qui se déplacent. Oui, mais j'ai mal au dos. Il y a des projecteurs qui se déplacent et qui mettent la lumière sur certaines catégories de migrants. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas... quand ils sont déboutés du droit d'asile, n'ont plus accès à aucune aide, ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont vraiment dans l'ombre. Voilà, ils sont dans l'ombre avec leur famille, donc c'est en ça où l'action est
importante. Par rapport au travail, c'est vrai que...
On ne se substitue pas à l'État. C'est que l'État ne fait plus rien pour eux.
Voilà, donc ils sont hors... voilà, ils n'existent pratiquement pas, enfin, on veut les mettre dehors. Pardon ? Ils sont des sans-papiers. Donc c'est des combats aussi au quotidien, c'est vrai, pour essayer d'avoir aussi au niveau sécurité sociale, enfin il y a des choses hein, en France qui sont intéressantes pour eux, mais bon, il faut, c'est vrai qu'on fait beaucoup de démarches pour qu'ils aient au moins ce minimum de droits. Mais ce que je voulais dire, notre problème là, c'est le problème là du travail, effectivement, parce que là ils ont un toit, socialement on arrive à s'en sortir, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, bon. Mais il y a ce problème là, donc c'est vrai que... Le travail au noir, il le fout. Bah, il bosse. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a les chèques emploi-service. Bon, dans une certaine limite, c'est vrai qu'on n'est pas allé loin. Il y a des gens qui le font, mais il y a quand même cette peur de la personne qui va solliciter une personne sans papier. Bon, il y a un risque. Donc c'est à chacun de prendre ces risques-là, mais ça se fait. On a des familles qui travaillent. Et franchement, quand elles arrivent à travailler, c'est super pour elles. Hein. Parce que là, l'autonomie, l'indépendance, elles l'ont de plus en plus. Parce que malgré tout, on est quand même dans un fonctionnement un peu protecteur. Et aussi, ce qui est difficile, c'est d'arriver à avoir cette marge de recul par rapport à ces familles. Moi, je trouve ça très difficile, mais bon, c'est super enrichissant. Mais je ne sais pas comment à Momocho, vous vivez ça, mais faut trouver ce juste équilibre entre aider, mais pas faire à la place d'eux. Et puis, ils sont toujours tellement... Voilà, ce problème financier est important, quoi. Le fait de ne pas travailler, au niveau de la dignité, c'est terrible.
Ils ont des savoir-faire, en plus.
Ouais.
Plein. Pierre ?
Ouais, j'ai deux questions à poser et une proposition. En fait, dans les deux questions à poser, c'est par rapport au fait d'être complètement excentré. On vit complètement, on vit assez loin de tout, par rapport au mode de déplacement. Donc même si on mettait une caravane derrière, il serait quand même assez coincé dans la caravane. Et en plus, le problème, donc la deuxième question, c'est comment on fait avec cet isolement, je dirais, de vivre à la campagne et un peu isolé. Et l'autre problème, c'est, par exemple, avec les Syriens, ça risque vraiment de se poser. C'est-à-dire que ce n'est pas des milieux sociaux. Les gens s'imaginent que ce sont des pauvres qui viennent, qui travaillaient la terre à coups de pioche, etc. Quand on connaît le Moyen-Orient, les mecs... Les gars, pour qu'ils fassent le jardin, il faut qu'ils aient le couteau sous la gorge, parce que travailler la terre, il n'y a rien de plus dégradant que ça au Moyen-Orient. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer à des personnes comme ça, dans des endroits où on habite?
Voilà. L'exemple des familles,
par exemple, les Syriens, pour l'instant, ils sont demandeurs d'asile
ils sont
pas demandeurs d'asile. Ils ont déjà l'asile.
Ce soir, on ne parle pas des Syriens, justement.
Donc, autre chose, est-ce que, par exemple, ils ne pourraient pas donner des cours de langue?
Ouais.
Parce que ça pourrait être intéressant d'apprendre, je ne sais pas s'il y a des farcis. Apprendre le farsi, c'est quand même super, super intéressant. Et du coup, ça permettrait de créer un lien, qu'il ne faut pas un lien de dépendance, mais qu'il faut un lien de...
On va peut-être répondre à la question peut-être un petit peu après, mais j'aimerais bien que vous disiez vous aussi votre expérience, votre naissance, votre... Voilà.
Donc Kaltoum du réseau Momocho. Donc comme tu l'as un peu dit, nous ça fait 2 ans qu'on réfléchit à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles avec enfants qui dorment dehors. Donc c'est vrai que les premières réunions on était tous un peu ensemble et certains ont pris la voie de jamais sans toi et d'autres se sont dit que on peut prospecter ce qui se faisait déjà sur l'Aveyron et on a rencontré des personnes comme tu disais qui hébergeaient déjà des familles sans papier. Voilà, on a rencontré plusieurs pour savoir s'il y avait l'intérêt à faire ce genre de réseau ou pas. Et dans les rencontres qu'on a pu avoir, la réponse était oui. Donc on a créé Momocho, qui est un réseau d'hébergeants solidaires. Donc l'idée, c'est d'héberger des familles avec enfants qui n'ont pas de toit, de manière itinérante en fait. Donc on a un réseau entre 15 et 20 hébergeants, des particuliers, qui ouvrent leurs portes pour une nuit minimum à 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc voilà, nous, la problématique, c'était qu'on ne peut pas laisser des familles avec des enfants dehors. Donc c'était la solution qu'on propose jusqu'à présent. Donc ça fait, on a mis un an et demi à réfléchir exactement à comment on pouvait coordonner ce réseau-là. Et là, de manière effective, il fonctionne depuis mars 2015, depuis exactement les vacances d'avril 2015. Et voilà, donc on a hébergé jusqu'à il n'y a pas très longtemps une famille avec de 6, donc un couple avec 4 enfants, dont la plus petite doit avoir 18 mois, si je ne dis pas bêtise. Et voilà, donc des fois, tous les 3 jours, des fois plus longtemps, tous les 15 jours, on les a déplacés nous-mêmes. Donc on est une dizaine, douzaine de bénévoles qui sont coordonnant le réseau. Et on les a déplacés chez les hébergeants qu'on a rencontrés au préalable. Pour parler de toutes les...
On a établi quelques règles.
Voilà, on a établi des règles, c'est que nous, voilà, la seule demande qu'on avait, c'était d'héberger les familles pour la nuit. Après, au fil des rencontres avec les hébergeants, il y a des propos qui ont dit bah, non, ils peuvent rester toute la journée chez moi. J'offre des fois le gîte et le couvert aussi, la possibilité de prendre, de les déplacer aussi, parce que c'est des hébergeants qui peuvent être un peu excentrés du Rodez. Donc, s'ils avaient besoin d'aller dans les œuvres caritatives, comme enfin, le secours populaire, le secours catholique pour les colis alimentaires. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a travaillées pendant, avec chaque hébergeant. Et voilà, donc la motivation première de pourquoi on a fait ce réseau, c'est que, voilà, il y a 2 ans maintenant, il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a 2 ans, on pouvait, voilà, les personnes qu'on avait, les familles avec l'enfant qu'on pouvait devoir dehors, dormir dehors, c'était des déboutés, voilà, c'est-à-dire des personnes qui ont eu la demande d'asile qui arrivait à la fin, donc c'est terminé, où il y avait, il y a 2 ans encore, des primo-arrivants, donc des personnes qui arrivent à peine sur le territoire. Donc à l'heure actuelle, on sait que tous les primo-arrivants sont normalement logés. Et l'autre chose, c'est que il n'y a pas de place d'hébergement d'urgence, ce qu'on appelle le 115 communément, pour les familles. En Aveyron, il n'y a pas. C'est soit on sépare les familles, donc on met le père d'un côté et la maman avec les enfants de l'autre, mais il n'y a pas de place proprement dite pour des familles en Aveyron pour le 115. Donc tout ça nous a amené voilà, à créer Momo Show. Et voilà, donc on fonctionne depuis avril 2015. Et bon, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Martine. La famille, actuellement, depuis le 1er novembre, voilà, on s'est rapproché de Jamais Sans Toi. Et on coordonne l'antenne de Rodez de Jamais Sans Toi, en fait, pour pouvoir héberger cette famille. Donc depuis le 1er novembre, elle est dans un appartement voilà, stable pour cette famille avec 4 enfants. Ça ne veut pas dire que Momo Show n'existe plus. Momo Show va continuer. Et si, voilà, pour l'instant, on peut se dire, je ne sais pas si c'est une remarque que vous allez peut-être faire, mais on a hébergé une famille, mais c'est déjà une famille. C'est pas parce qu'on, voilà, parce qu'on a eu des fois ce genre de remarques. Enfin, personnellement, j'ai eu à répondre à cette remarque. Oui, mais vous n'en aidez qu'une. C'est pas parce qu'on n'aide pas tout le monde que la possibilité d'en aider une n'a pas sa légitimité, en tout cas. Pour nous, on, voilà. Après, quand je dis une nuit, ben c'est déjà une nuit, en fait. C'est déjà une nuit qui ne passera pas dehors, qui fasse très beau ou qui fasse moins 3. Pour nous, ça ne change rien. Tout ça pour dire, je ne sais plus, mais... voilà, donc Momo Show continuera. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, une famille de 6, c'est conséquent. Ouais, voilà. Donc sur notre quinzaine, vingtaine d'hébergeants, tous n'ont pas la capacité d'accueil de 6. Donc en effet, on a sollicité, je pense, une petite dizaine, même pas, d'hébergeants pour accueillir cette famille. Et en effet, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps, parce que quand je dis ça, c'est que... donc on est déjà 3, mais il y a d'autres bénévoles qui n'ont pas pu venir. On assure l'entrée physique chez les personnes et on assure aussi la sortie. Donc on fait à chaque fois les déplacements, donc ça peut être des déplacements tous les jours. Enfin, ça ne s'est pas arrivé, mais en tout cas tous les 2 ou 3 jours. Voilà, donc on les déplace et 6 personnes à déplacer, en effet. Donc c'est pour ça qu'on a pris sur nous de dire, pour savoir comment ça fonctionnait aussi, pour voir si c'était une solution qui pouvait être envisageable sur le long terme. Et voilà, on a pris cette famille, uniquement cette famille. Donc maintenant, je pense qu'on n'a pas encore annoncé officiellement, parce que faut savoir que notre démarche, avant d'héberger effectivement cette famille, on a rencontré un peu les institutions, donc on est allé voir le CADA, on est allé voir, comment ça s'appelle, bon c'était le SAO, mais ça ne s'appelle plus comme ça, mais en tout cas ceux qui gèrent l'hébergement d'urgence, on est allé se présenter. Nous, en tant que Momo Show, on dit voilà, nous on crée ce réseau. Comme au CADA, on sait que quand ils sont déboutés, ils ont 30 jours pour quitter le CADA, mais est-ce qu'on peut essayer d'anticiper des choses? Voilà, pour... Et le SAO, c'était la même chose, parce que comme ils ont à répondre au 115, s'ils n'ont pas, est-ce que... voilà, leur dire, on existe, Donc voilà, on s'est présenté et c'est ben, la personne, la famille qu'on héberge est une famille sortante du CADA. Le CADA nous a dit dans telle date elle va sortir, est-ce que vous pouvez la prendre? Bon, la question, on a beaucoup réfléchi sur cette famille très, enfin nombreuse en tout cas, mais on s'est dit qu'on n'allait pas le faire en plus le choix de dire ben, on prend cette famille, pas celle-là. Enfin, on a voilà, clos la discussion en disant qu'on prend la première qui nous interpelle. Mais de avril 2015 à aujourd'hui, on a enfin, constamment, au moins, je sais pas, en moyenne, un appel par semaine pour nous demander si on pouvait héberger. Des appels de plusieurs personnes, mais aussi de travailleurs sociaux. Donc on remarque bien que aussi les travailleurs sociaux qui ont ce public-là, bah, se retrouvent des fois démunis parce que bah, ça a été un peu dit là, vite fait. Que l'État, en effet, pour l'État, ils n'ont plus la vocation à rester ici, mais en tout cas pour nous, on sait que même si leur histoire n'a pas été crue par les autorités, nous, peu importe, on sait qu'ils ont, pour eux, ils ont pas, ils peuvent pas repartir. C'est impossible pour eux de repartir. Mais en tout cas, ils n'ont pas, pour nous, vocation à rester là. Donc, voilà. Donc on voit que des travailleurs sociaux, voilà, qui ont ce public-là en permanence, nous appellent. On se dit que Momocho a... avec des contraintes, on pourra en discuter, mais en tout cas, Momocho, même si on a créé jamais une antenne avec Jamais Sans Toi à Rodez, va continuer. Donc je pense que si on enverra un mail, en tout cas, pour avertir tout notre réseau sympathisant et aussi l'institution qu'on a hébergé cette famille, je pense que le lendemain, on a sur le répondeur un appel pour héberger une famille. Et après, juste pour vite fait, mais peut-être que les filles pourront compléter mieux que moi, par rapport à l'antenne de Jamais Sans Toi, nous, on s'est dit que, voilà, cette famille, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de... Voilà, essayer d'imaginer quelque chose de plus stable pour elle, pour pouvoir peut-être enclencher d'autres choses avec d'autres familles. Et on a fait, nous aussi, pareil, un appel au don, avant de se rapprocher de Jamais Sans Toi. Et on a actuellement, pour financer l'appartement de cette famille-là, pas tout à fait 50 personnes, 50 donateurs. Voilà, donc on peut, le loyer pour notre appartement, bon, c'est anecdotique, mais 450 € toutes charges comprises. Voilà, donc après, voilà, donc les donateurs payent, ben, de payer ce qu'on appelle les fluides, j'ai appris ça il y a pas longtemps, EDF, l'eau, le chauffage. Et après, voilà, ils sont sur Rodez, donc ils ont toujours les colis alimentaires, les enfants, ben, ils sont scolarisés dans le Grand Rodez, donc... c'est très bien pour eux et voilà, donc je sais pas ce que... Donc voilà, et du coup, nous, ben, voilà, on a créé l'antenne Jamais Sans Toi, mais on a... voilà, c'est coordonné par un petit groupe de personnes, on passe régulièrement à les voir, mais du coup, depuis le 1er novembre, enfin... voilà,
ils sont dans les murs.
Ils sont dans les murs.
Dans leurs murs.
Avec un toit. Et en fait, voilà, en effet, du jour, enfin, quand on leur a annoncé... la bonne nouvelle, c'était... voilà. Mais c'est vrai que, voilà, donc on avait pensé à Momocho, on avait des objectifs, c'est que on est comme dans le transparent, enfin, je veux dire, les personnes qui veulent nous contacter, on n'hésite pas, je sais que sur la table, vous pouvez voir un des derniers communiqués de presse qu'on a envoyé à la presse, bon, c'est vrai qu'on est assez bien relayé, on a fait plusieurs manifestations pour se faire connaître, au Guingois récemment... voilà, donc c'est aussi un des objectifs de mon show, c'était, on peut pas faire ça dans l'ombre dans le sens où on fait ça entre nous et les gens à côté ou les autorités ne sauraient rien, quoi. Donc c'est aussi les mettre face au manque qu'ils ont du fait, bon, les déboutés de droit d'asile doivent repartir chez eux, ils n'ont plus vocation à rester ici, sauf que... ben, ils sont ici, quoi. Ils sont ici, donc nous, c'est notre manière aussi d'interpeller les autorités, dire qu'il y a des citoyens, ou en tout cas des personnes lambda qui hébergent, quoi. Donc, je pense que ce soit Jamais Sans Toi ou Momocho, je pense que c'est en accueillant des déboutés, on est complètement dans un acte de résistance, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que les autres, ben, voilà, ils rentrent bien dans les cases du droit commun, mais eux, non. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Vous prenez un collectif, vous ne prenez pas une association.
Oui, voilà. La différence avec Jamais Sans Toi, c'est qu'on n'est pas associatif. On n'a pas choisi le mot collectif pour ne pas faire résonance avec le collectif pour les réfugiés de Rodez. Bon, même s'il y a des gens qui sont sympathisants des deux côtés, donc voilà. Mais on est réseau. Donc pour plusieurs raisons. C'est que bon, la première, c'était qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir à dire qui va faire le président, la trésorière, des machins comme ça. Et après, on n'avait pas forcément envie de... enfin, pour le moment, en tout cas, mais c'est jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas envie de faire des demandes de subvention pour, voilà, pour exister. Parce qu'on se dit qu'avoir des subventions, c'est peut-être aussi des fois rendre des comptes, financer des choses comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on reste réseau. Peut-être que, je ne sais pas si l'avenir nous dira si on évoluera en association ou pas. Je sais pas si...
Et donc vous êtes ouvert à recevoir d'autres propositions de familles accueillantes.
Mais oui, alors là, officiellement, on se voit jeudi soir prochain pour justement dire, voilà, ça y est, la famille, maintenant, elle est bien installée, on a tout aménagé comme il fallait. Donc oui, je pense que...
Non, mais de familles accueillantes.
Ah oui, il y a des hébergeants, oui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis, mais on a des petits flyers avec nos numéros de téléphone, et, parce qu'on a une ligne dédiée rien qu'à Momocho. Et on a un mail, donc après, oui, après, on peut se voir et on notera ça sur un bout de papier. On est preneuse et preneur, parce qu'il y a quand même un garçon dans le groupe, de personnes pour héberger, donc des hébergements. Après, comme je l'ai dit, on rencontre individuellement chaque hébergeant pour pouvoir expliquer un peu ce que ça, à quoi ça engage, même si je pense que toutes les personnes qui sont là ont sûrement très bien compris. Mais on a établi une petite fiche avec les coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, la capacité d'accueil. Donc c'est des familles, donc c'est minimum un couple avec un enfant, le nombre de nuitées. J'ai entendu le monsieur qui disait oui, mais nous on est un peu excentré, mais est-ce que c'est possible? Si c'est excentré, est-ce qu'il y a une ligne de bus qui passe dans le coin ou est-ce que vous êtes prêts, vous? Non, mais on avait des familles sur le bassin de Casse-Villois. Bon, il y a un bus qui passe, mais après, est-ce que l'hébergeant est prêt à proposer? Ouais, moi je monte une fois par semaine ou une fois tous les deux jours à Rodez. Bah, je veux bien les amener, c'est pas des choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'on met sur cette. Et après aussi, on est preneur aussi de bénévoles. Parce qu'on est un petit noyau dur sur la douzaine, que je dis, ou la quinzaine, un noyau dur du 7-8, à coordonner vraiment le réseau avec une personne qui est vraiment dédiée au planning. Mais après, il faut des personnes aussi pour le transport. Il y en a qui sont avec nous que pour déplacer la famille de tel endroit, on les appelle, c'est dispo. Ouais.
J'aimerais savoir comment ça se passe pour les enfants qui sont scolarisés.
Alors, pour le cas donc, de la famille, on a réussi à maintenir la scolarisation, sauf que dès qu'on a rencontré cette famille au CADA, on leur a expliqué qu'en effet, vu le réseau, le dispositif qu'on propose, on ne garantit pas la scolarisation. Après, ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils sont complètement maîtres de la décision qu'ils vont prendre, soit d'accepter notre proposition, soit de la refuser en fait. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette question. C'est que pendant les vacances scolaires, ils n'étaient pas sur le Grand Rodez, donc c'était bon. Après, c'est vrai que début septembre, la question s'était posée, mais l'endroit où ils étaient, il y a eu une solidarité qui s'est faite entre les voisins qui a permis que les gamins aillent tous les jours à l'école. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu cette question-là, mais c'est quelque chose qu'on leur a dit clairement au départ, en tout cas. Que si les enfants, ils vont pas, c'est pas la. C'est bizarre, on va pas mettre un ordre de priorité dans les choses, mais en tout cas, nous, ce qu'on leur propose, c'est de ne pas dormir dehors. Après, si on peut assurer le reste, même pour les colis alimentaires, c'est, ça se trouvait qu'on est à des moments pendant l'été, on a été allé chercher pour eux. Mais en effet, voilà, on offre des nuitées, mais si on peut arranger tout le reste, c'est encore plus génial.
J'ai aidé le petit garçon à faire ses devoirs et je lui dis, mais pour toi, c'est quoi le plus difficile dans ta situation? Parce qu'il bouge tout le temps, c'est vachement dur pour la famille. Petit garçon.
Ah, d'accord.
Et je lui dis, c'est quoi le plus dur pour toi? Est-ce que c'est de déménager tout le temps tes affaires? Est-ce que c'est de voir que papa et maman, ils sont tristes? Moi, j'essaie de le faire parler.
Ben ouais, un peu, ouais.
Et il m'a dit, le plus dur, c'est que je peux pas aller à l'école tous les jours.
Oui, parce que c'est vrai que je sais pas, une de nos... de nos amis, enfin de bénévoles, avait fait ça en disant mais c'est les vacances, lui c'était atroce les vacances. Ouais. C'est qu'elle dit non, moi je ne veux pas t'aller.
Je vais raconter ça.
Mais c'est vrai que voilà. Non mais c'est vrai, voilà, en effet, c'est complètement compréhensible dans le sens où c'est un peu la seule chose qui est un peu stable dans leur vie Et voilà, avec voir les copains pendant la journée, à un moment donné, on oublie. Même si, voilà, nous, cette famille-là, puisque tu les as rencontrés, n'ont jamais rien laissé trop transparaître sur, même si voilà, on arrive à détruire des choses quand même. Mais c'est vrai que voilà, tant que se faire se peut, je sais pas comment on dit, si on arrive à tout maintenir autour d'eux, on essaye. Et après, c'est vrai que voilà, jamais sans toi, mais tu parlais de. Un petit peu de l'insertion sociale avec par le travail, en tout cas par les activités. C'est vrai que voilà, nous, Momon Show, on est. On n'est pas à ça. Après, voilà, on sait qu'on est en contact avec plein d'autres réseaux associatifs. Donc, il y a possibilité de dire, ben, s'il y a une demande qui est faite par la famille, de l'orienter vers telle personne, vers telle structure. Enfin, voilà, on n'est pas rien qu'entre nous, on va se clôturer.
Parce que, ben, au niveau des institutions, il y a quand même un gros problème. C'est que si on veut que ces déboutés du droit d'asile trouvent à un moment donné du travail et des papiers, ils nous disent tous il faut qu'ils aient un certificat de travail. Donc on est dans un cercle vicieux où. Alors à un moment donné.
Pardon ? Mais c'est pas toujours suffisant.
Voilà, c'est pas toujours suffisant. Alors après, à une époque, on s'était dit on attendra 5 années pour que la famille voilà, soit plus intégrée, qu'on ait des preuves de leur intégration, de leur culture, enfin de. Le fait qu'elles parlent français, qu'elles sont bien insérées dans les associations, et ce fameux contrat de travail. Bon, mais on est là, l'espoir, enfin, faut pas trop penser à ça, mais on est quand même, on se questionne beaucoup, quoi, hein, sur combien de temps on va fonctionner comme ça et quelles vont être les solutions pour eux, parce que là, pour l'instant, c'est, c'est pas optimiste, quoi, hein, ce qu'on trouve là, en plus avec les Syriens.
C'est un peu référence à la circulaire
Valls. Oui, ça, voilà, ouais. Bon, ouais. Là, c'est. Ça fonctionne plus du tout, quoi. Donc c'est vrai, on ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Bon, on continue dans cette logique-là, hein, de construire des dossiers de plus en plus costauds et pour qu'un jour, ben, on revienne devant à la préfecture en disant, bon, mais voilà, cette personne-là, revoyez son dossier. Et puis, par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comme on est plus nombreux, qu'il y a une association qui se crée, je pense qu'on a un poids. On a un rapport de force qui est intéressant. Alors... je sais pas, on l'a peut-être pas encore testé. Alors bon, c'est toujours embêtant jusqu'à voilà jusqu'où on va. Mais je pense que bon, ils sont au courant, ils nous connaissent hein, puisqu'on va les rencontrer aussi. Et il y a un certain équilibre, on va dire. On fait pas de bruit, les familles sont là, elles font pas de bruit non plus. Donc tout va bien. Mais bon, ça suffit pas. Puis ça suffit pas non plus parce que en attendant, elles sont là, toujours dépendantes quand même de nous. Et c'est pas satisfaisant.
Mais c'est parce que pour les deux parties, c'est pas satisfaisant ni pour eux ni pour nous. Parce
comme, donc, là, comme l'institution de proximité pour nous tous, c'est de toute façon la municipalité, la mairie, est-ce que vous avez eu des contacts avec les mairies du Vallon, on va dire, puisque vous êtes sur le Vallon ou la mairie de Rosay, pour voir ce que, en tant qu'institution représentative des citoyennes de la commune, cette institution pouvait agir, fournir des moyens, des locaux, voilà.
Alors sur, on a sollicité la communauté des communes de Marcillac-Conques. Donc c'est vrai que on avait demandé des aides financières. Donc peut-être tu peux en parler, Claude, un peu plus puisque tu avais suivi.
Oui, donc effectivement, on avait rencontré le président de la communauté de communes et puis son vice-président. Orienté sur les problèmes, disons, sociaux, d'aide à la personne. On a fait donc une demande officielle d'aide de subvention et elle a été refusée pour la raison très simple, c'est que ces personnes sont clandestines et donc l'argent public ne peut pas aller à des personnes clandestines, en gros. Je peux donner l'exemple aussi de la famille de Casseville, où là, tout était quasi préparé et bien fait, parce que à De Casseville, il y a une association qui s'appelle Access Logement, qui existe depuis déjà 15 ans, et qui s'occupe aussi d'accueillir donc des familles. Elles avaient tout cadré pour la famille qu'elles nous ont proposé de prendre en charge. Tout était gagné, on avait même les clés du logement HLM. Et puis, quand j'ai été voir le président et puis le directeur de HLM, et que j'ai été quand même un peu plus précis en disant, bah, vous savez que ce sont des familles qui à terme vont vraisemblablement être clandestines et tout ça, Alors là, il y a eu des difficultés. Alors ils ont imaginé de faire une convention avec nous pour faire en sorte que ça puisse marcher. Et puis, en allant un peu plus loin, ça a été niet. Bon, et puis avec Nanou, hier, on a rencontré le président de la communauté de communes, puisque on a aussi des soucis, on a des soucis financiers, et c'est évident, et on essaie de grignoter partout où on peut pour faire en sorte que on ait plus de possibilités d'assurer des logements pour d'autres familles. Et là, on a des soucis en pensant combien on va avoir à payer avec les taxes d'habitation, avec l'assainissement, enfin toutes ces choses-là. On a rencontré le président de la communauté de communes pour lui dire est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous ? Et nous, il nous a répondu hier d'une manière très claire, écoutez, de toute façon, pour 2016, c'est impensable parce que tous les budgets sont déjà cadrés. Premièrement. Hein l'an prochain, vous nous écrirez une lettre pour nous le demander éventuellement. Vous voyez comment ça se passe. Cependant, je peux vous dire qu'à Decazeville, la famille qui est hébergée est absolument. Enfin, c'est une maman seule avec 3 enfants. Les enfants sont superbes au collège et tout, donc il y a une très très belle image de leur. Engagement et insertion donc en France. La maman, elle va 3 après-midi à Emmaüs pour apporter son aide bénévole. Hein. Et là, on l'a reçu la redevance ordures ménagère, 130 euros par semestre. Et finalement, en allant ici et là, j'ai reçu ce soir l'information comme quoi les 130 euros, exceptionnellement, vont être pris en charge. Bon, ce qui veut donc dire qu'il faut aller à la pêche aussi pour trouver l'argent. Hein, je tiens à le préciser aussi, c'est pas mince, mais ça peut marcher. Mais aussi parce qu'on a affaire à des familles qui ont ce désir de s'insérer, qui témoignent de leur capacité à être dans le bénévolat, dans apporter beaucoup de choses. Et puis aussi, c'est parce que il y en a, je dirais, un certain nombre d'entre vous, hein, clairement, d'abord qui donnent au travers du don, mais aussi au travers du temps, et entre autres l'accompagnement pour le français, parce que c'est vraiment primordial.
Alors après, il y a des pistes, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau des institutions, hein. Quand on rencontre les assistantes sociales, on parlait du problème du déplacement. Parce qu'effectivement, l'idée qu'on avait à Jamais Sans Toi aussi, c'est de se dire, ne restons pas sur l'agglomération de Rodez, puisque la plupart des migrants, enfin des déboutés du droit d'asile sont là. Essayons de décentraliser, donc ça, on est arrivé à bien le faire. Et je pense que le directeur du CDDSPP, là... DDSPP, a entendu ce message et je crois que ça leur plaît. Ça va dans le sens qui fait que ça se passe bien.
Un par village de 800 habitants.
Et donc, par contre, on a discuté beaucoup avec pas mal d'assistantes sociales et toutes ces personnes-là seraient prêtes, je pense que là, il faudrait à un moment donné se rencontrer, seraient prêtes à faire monter au Conseil Général le fait que ces déplacements de ces personnes... C'est 2 euros le trajet, mais c'est énorme pour eux. Hein. Pour faire un Rodez-Marcillac 2 fois par jour, bon, c'est un budget énorme. Donc elles étaient prêtes à faire un courrier pour qu'au niveau du Conseil Général, il y ait une gratuité des transports. Donc on ne l'a pas fait, ça. Ça reste en suspens, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire avancer, parce que c'est comme ça que peut-être petit à petit, bon, Conseil Général de l'Aveyron, on sait ce qu'il est, mais bon, faut tenter, hein. Je sais pas.
Monsieur Maigret.
Pas très français, ça, si.
Les avocats qu'on avait rencontrés à Saint-Afrique nous avaient donné un moyen assez intéressant d'intégration par le travail. Alors, elle a parlé des chèques en co-service, mais il y a une deuxième solution qui me paraissait intéressante, c'est qu'ils faisaient du travail bénévole chez vous et vous faisiez un don à l'association. C'est presque légal.
Et en plus, vous...
conseillé par deux avocats qui s'occupent de l'immigration. Donc si vous connaissez autour de vous des chantiers où vous pourrez intervenir, c'est absolument génial, ça fait et de l'argent, et en plus ils sont actifs, etc. Et puis, sans exploitation, à temps plus.
Bon alors donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez un peu de temps libre, si vous avez un petit peu de sous, il y a tous les documents qui sont posés sur la table pour ça. Ce qui serait peut-être intéressant maintenant d'aborder, mais bon c'est vous qui décidez aussi de ce que vous avez envie d'aborder comme sujet, ça serait de revenir un petit peu sur les migrations, ce que ça représente. Éventuellement, quelques témoignages sur l'assimilation des immigrés qui ont été assimilés. On a tous vu nos âges, ou à peu près, pour quelques exceptions. Dans la tête, l'histoire des rapatriés d'Algérie qui sont arrivés, effectivement, avec leurs baluchons. Bon, nous les avons absorbés, entre guillemets. Et donc effectivement, il y a eu plusieurs vagues comme ça. Les Espagnols avant ça, de l'exode de 36, et ainsi de suite. Les Portugais, oui, je vois. Mais ça n'empêche que si vous voulez, on peut aussi revenir sur un peu le début de la conférence, de l'exposé de Michel, et si vous avez des questions à poser aussi sur ce thème, ne vous en privez pas. Oui,
moi c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à l'histoire du nombre de personnes par village. Il faut savoir que sur la France, 24 000 personnes, c'est 4 fois Espalion. On est un pays qui ne serait pas capable d'avoir 4 villages comme Espalion sur son territoire. C'est vraiment, on est en dessous de tout. Quoi. C'est vraiment rien.
Oui. Je voudrais parler de la coalition climat. C'était une association de 130 syndicats, associations, etc. En vue de montrer cette histoire de la COP21 qui va avoir lieu la semaine prochaine, où rien n'en sortira. Et je trouve que c'est le lien direct avec l'immigration. Quand on pense que ce mois-ci, en 2015, un rapport de l'ONU a dit qu'on atteindrait certainement 1 milliard d'immigrés climatiques. Et climatique, ça ne veut pas dire c'est la nature, c'est politique. C'est la politique de gouvernement qui fait qu'on a un réchauffement climatique. On peut prendre des tas d'exemples. Au jour d'aujourd'hui, j'entendais l'origine de la guerre Daesh, etc. On a négligé deux paramètres hyper importants. Il y a eu sécheresse quand même en Syrie. Ils étaient exportateurs de blé. Ils sont devenus importateurs de blé. Donc la misère qu'il y avait dans les campagnes s'est reportée dans les villes. Et cette misère est toujours un endroit phénoménal pour recruter des troupes. Le lac Tchad a perdu les 3/4 de sa flotte. Et Boko Haram s'est fait un plaisir de recruter aussi cette misère. Et pourquoi il y a tout ça? C'est parce qu'il y a ce dérèglement climatique et qu'on ne prend aucune décision pour empêcher ces gaz à effet de serre. Je ne vais pas faire le topo sur ça. Mais là, il y a un lien direct entre cette COP21 et le dérèglement climatique. Il n'y a pas que ça. Encore en Syrie, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont exportateurs de gaz et de pétrole. Et à un certain moment, l'Iran a dit « Tiens, moi j'aimerais bien exporter via l'Irak et la Syrie ». Sur ce, l'Arabie Saoudite a dit « C'est pas possible ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé ce Daesh aussi pour combattre l'État laïque de la Syrie. Donc c'est à la fois ce qu'il y a dans le sous-sol qu'on doit laisser, sinon ça va s'échapper, et à la fois aussi ce réchauffement climatique qui crée la misère et qui crée tout ça.
Donc, tu as raison. Tu as raison, mais les choses vont encore beaucoup plus vite. Si tu as lu récemment une parution sur, comme tu l'as dit, sur le réchauffement climatique, les îles Kiribati, il y a 50 000 personnes, ils ont déjà acheté, ils veulent acheter 5 000 hectares de terre à Nouvelle-Zélande, parce que leur pays il va disparaître en moins de 20 ans. Quoi. et la culture qu'ils vont pouvoir garder lorsqu'ils vont aller à Nouvelle-Zélande, c'est ça un enjeu majeur de la civilisation. Hein. De toute façon, on sait que l'homme, il a franchi le détroit de Bosphore et qu'il est venu habiter chez nous, eux, ils sont... c'est direct life, quoi. Eux, ils vont disparaître. Quoi.
Alors, pour abonder dans ton sens, il y a 40 pays qui refusent l'histoire du réchauffement à 2 degrés. Ils disent que pour eux, c'est la catastrophe. Ils sont menés par le Bangladesh. Et on prend les îles Maldives, ça va aller dans ton sens. Il y a quelques temps, aux îles Maldives, le gouvernement a fait sa réunion avec des bouteilles à oxygène sous la flotte pour montrer que, évidemment, le monde des Maldives, il doit faire 5 mètres.
Ouais.
Donc, c'est pas. Ce qu'on craint, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Au Sénégal, où on est allé, il y a des gens qui nous ont dit eh ben, vous vous rappelez le terrain de foot qu'il y avait et les maisons. Ah, ben ça y est, il n'y a plus le terrain de foot, il est sous la flotte. Donc, autrement dit, ce qu'on craint pour l'avenir, c'est ce qui se passe en ce moment.
Ça tient, moi, c'est
carrément.
Marc, si c'est un terrain de foot, là, moi je m'en fous.
Non, non, c'est pas ça que je veux dire.
Il Platini, qu'est-ce qu'il va faire?
Il est de quelle origine?
Le Qatar va financer le rehaussement. Oui, Jean.
Oui, moi, pour aller dans le sens un peu de la démonstration sur la disproportion entre l'histoire des migrations et l'actualité des migrants, je voudrais rappeler la situation dans le bassin de Casville que je connais bien. Et comme je connais bien aussi l'immigration espagnole, à la fois l'immigration économique des années 10-30 et la migration exil politique, parce que c'est un exil politique en 1939, je voudrais rapprocher un peu ces chiffres. Dans les 20 années entre 1900 et 1920 et quelques, le bassin mouillé, avec ses 5 villes que vous connaissez sûrement, donc de Casville, Viviers, Aubin, Grand Sac et Firmi, avait, au recensement de 1926, avait 36 000 habitants, ces 5 villes. Et à ce même recensement, il y avait 7 500 étrangers, dont 5 500, je veux dire, je ne me souviens pas, à quelques unités près, hein, dont 5 500 espagnols, puis polonais, dans l'ordre, puis italiens, puis portugais.
Merci.
Pas vraiment en quatrième position à ce moment-là, en 1926.
On est les petits joueurs. Donc,
et à Viviers en particulier, où la vieille montagne était un agent recruteur très important d'espagnols qu'elle allait chercher aux frontières, à la fois sur Andaï et sur le Pertus, il y avait à ce même recensement, sur 3100 habitants à Viviers, il y avait un tiers. Il y avait 31% d'Espagnols. Donc on les a très mal accueillis, entre parenthèses, mais on les a intégrés parce que la nécessité économique a fait qu'on les a effectivement, on est allé les chercher et on les a intégrés. Deuxième exemple pour ce qui touche le bassin, 1939. 1939, je ne vais pas entrer dans les détails, les hommes de plus de 50 ans, les Espagnols de plus de 50 ans sont parqués dans des camps de concentration dans tout le sud de la France. Les femmes, les enfants, les vieillards, les blessés, on en envoie un certain nombre dans des camps dits d'hébergement, effectivement plus souples que les camps où étaient enfermés les hommes, Argelès, Saint-Cyprien, Noircarrés, etc. On les envoie sur la vallée de la Loire, la Bretagne, etc. Mais on en envoie également dans nos régions. Et arrive à Rodez en mars 1939 un convoi de 2297 femmes, enfants, vieillards à Rodez. Et on les ventile sur 43 communes de l'Aveyron. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Aveyron a promis, s'est engagé à recevoir 10 réfugiés. 10. Rodez, 4. De Casville, 2. Alors, je n'ai pas tout à fait compris.
Famille.
Deux familles, oui.
Oui, pardon,
je me suis trompé. Deux familles, effectivement. Après, je ne sais plus, non, celle, une famille. Donc, quand on repart en 1939, où l'Aveyron accueille mal, mais accueille quand même 2300 femmes, enfants et autres, et qu'aujourd'hui on en est justement à deux familles, et c'est pas simple. de l'accueil à De Cazeville pour ces deux familles, parce qu'on était dans une réunion où il s'est dit beaucoup de choses, mais en réalité, elles ne sont toujours pas là. Et non, elles sont toujours pas là. Et donc, c'est compliqué. Je voulais simplement insister sur la, encore une fois, sur cette énorme, grotesque disproportion dans l'accueil de ce qu'a été l'histoire de l'émigration et l'actualité aujourd'hui. Parce que c'est une honte, c'est une vraie honte.
Quelqu'un m'avait demandé la parole. Quelqu'un m'avait demandé la parole avant toi. Il y avait un doigt qui s'était levé et je l'ai oublié. Non ? Bon, alors à toi. À toi, vas-y.
Je voulais mettre un peu de l'eau dans ce vin de... Ah, bon, pourquoi on ne les accueille pas ? Si les migrants voulaient venir en France, ils seront là. Les gens qui sont actuellement en Allemagne et en Suède n'ont pas demandé de venir, ils sont venus. Hein? Ils n'ont pas demandé est-ce que les Allemands vont nous accueillir ou pas, est-ce que les Suédois vont nous accueillir ou pas. Ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils ont de la famille qui va les accueillir, cousins et cousines. Voilà. Et le fait, ce est que la migration qui est en route aujourd'hui ne veut pas venir en France. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas accueillis. Si jamais les portes seront ouvertes en France, ils seront là depuis longtemps. Et ils ne demanderont pas à quatre associations du Vallon. En Allemagne, il y a des gens qui vivent depuis des semaines dans des gyms, dans des salles de sport. Les membres n'ont plus de sport parce que malheureusement... la salle de sport est prise parce qu'il y a un lit à côté de l'autre. Hein. On parle de 500 qui sont arrivés l'an dernier en Allemagne. Il y a des cuisines tous les jours où il y a des bénévoles qui font à manger pour des centaines de personnes. Hein. Bon, là, on ne parle pas de... On va accueillir une famille par village, quoi.
Et tu penses que en France, on est moins accueillant qu'en Allemagne ?
Politiquement. Pour les gens n'ont pas l'impression que c'est le pays où il faut aller. Sinon, ils seront là. Ils ne demanderont pas comme le voyage de Tchernobyl si la frontière est ouverte ou pas.
Ich kenne Deutschland, ich kann Französisch sprechen. Mais je sais qu'en France, il y a vraiment... C'est le peuple le plus accueillant du monde. Et moi, j'étais migré, on m'a accueilli, mais les bras ouverts. Et puis nous, on a donné à nos enfants la culture de la France. Dans ma famille, on a des avocats, on a des psychologues qui sont prêts à bosser gratuitement pour... Si, non, mais c'est vrai. Et moi, je suis pas français. J'ai un passeport portugais.
Je ne dis pas que les Français. Excuse-moi. Les Français, je n'ai pas dit que les Français sont pas accueillants.
Les Français sont
bien accueillis, moi aussi. C'est pas ça ce que j'avais dit. Dans la perception des migrants qui cherchent où est-ce que je peux aller. Ils ne penseront pas tout de suite à la France parce qu'ils savent qu'il y a le Front National, ils ne sont pas accueillis. Ils ne savent
plus. Ils n'ont pas le droit de travailler. Il y a le gouvernement. Il y a des pays où ils ont le droit de travailler. Quel est le pays du monde où tu n'as même pas de nationalité, tu peux aller à l'école ?
La France, et que les premières frontières qu'ils rencontrent, ce sont des frontières sur lesquelles se bâtissent des murs, mais qui jusque-là avaient des passages qui les amenaient dans les pays les plus riches qui pouvaient sûrement les accueillir. Et c'est sûr que la France, elle est au bout du chemin. Voilà. Alors, bon, qu'on ait des politiques qui, effectivement, n'annoncent pas
sur tous les toits qu'on est très accueillant, c'est sûr aussi que dans la réalité des choses, on est un parti qui soit hostile à l'accueil des étrangers, c'est aussi connu. Mais il y a aussi en Allemagne des manifestations permanentes dans certaines villes où effectivement on refuse les immigrés. Je crois qu'il ne faut pas rester dans les généralités. Oui.
Mais il y a aussi, je crois qu'il y a une situation où il y a une espèce de schizophrénie au niveau de l'État français. C'est-à-dire qu'il y a une position qui est annoncée, c'est la même chose que pour les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire que, ok, vous êtes déboutés, mais on ne vous reprend pas forcément, on vous laisse là, vous démerdez dans l'ombre, on sait que vous, à peu près, vous habitez, on sait à peu près comment vous faites, mais on ne va pas vous aider. Et de la même manière, donc il n'y a pas un discours accueillant, effectivement, il n'y a pas une position qui est très nette, en fait, c'est ça, il n'y a pas une position qui est très nette, et y compris au niveau de l'économie. Parce que, par rapport à ce que tu disais, parce qu'en réalité, il y a des secteurs de l'économie qui n'attendent que ces gens-là. Ouais. Alors, c'est pas très florissant, hein, c'est les conserveries, les abattoirs, etc., les trucs où il faut avoir suffisamment de pression sociale pour tenir dans ces boulots-là. Mais t'empêche que ces secteurs-là, ils fonctionnent avec ces gens-là. Et en fait, ils fonctionnent via les boîtes d'intérim et qui vont prendre... Enfin, il y a tout un système qui est organisé. Alors, à partir du moment où ils ont le droit de travailler... mais d'empêche que dès qu'ils ont, moi je dois vous dire, l'État donne des autorisations de travail aux gens qu'on suit aujourd'hui, demain ils ont du travail. Oui. Nos problèmes. Oui. Mais il y a une espèce de position qui n'est absolument pas nette et il n'y a pas une position politique très assumée en réalité, ni d'un côté ni de l'autre.
Oui.
C'est-à-dire que je ne connais pas aujourd'hui les règles de l'OFPRA pour l'attribution ou non du statut de réfugié, mais il me semble que sur la question des réfugiés, il y a en tout cas une procédure, une législation, c'est assez cadré, quoi. Après le nombre de réfugiés qu'on accepte ou pas, passer les frontières, mais en tout cas, quand on arrive en tant que réfugié, il y a une procédure. Après, moi, ce qui me pose question, c'est une fois qu'ils sont déboutés, là par contre il y a une législation qui fait que normalement on reste pas. En tout cas, on n'a pas de droit en France. Bon, ce que tu dis est vrai, on laisse faire, mais on n'a pas de droit en France une fois qu'on a été débouté. Et la question que je me pose, c'est que juste du coup, et en plus il semblerait que la société s'oriente un peu vers des extrêmes qui soient de moins en moins tolérants, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme illusion? Qu'est-ce qu'on peut donner comme promesse ou comme avenir à ces familles qui sont hors procédure, qui sont hors législation, une société qui ne semble pas évoluer vers une législation plus souple? Qu'est-ce qu'on promet aux familles de Momochou ou aux familles de Jamais sans toi pour leur avenir? Voilà. Comment on peut construire quoi que ce soit dans une législation qui s'avère assez bouchée?
En réalité, on contribue au système. Et en fait, on fait partie de ce système. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est ça. On fait partie du système. Parce qu'en quelque part, l'État ne se prononce pas sur ces questions-là. Ils savent très bien qu'on est là et que ça fonctionne comme ça. Et tant mieux. Enfin, on fait partie de l'équilibre. On est des instruments de cet équilibre-là. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et alors, qu'est-ce qu'on promet? On promet rien. On est à manœuvrer dans ce système-là. Alors, effectivement, on a eu des discussions où il y a des positions qui disent « on ne croit absolument pas au pouvoir public ». Hein, c'était un peu des échanges qu'on a eus. De dire, d'autres, de dire « ouais, on a encore un État, alors on va essayer d'aller de pousser et de faire avancer des choses en essayant d'aller négocier oui. ». Voilà, on s'y...
Tu as raison, mais après, il faut s'organiser dans des partis politiques, quoi.
Christian, tu voulais parler ça pour moi, Pierre.
Oui, moi, je pense quand même qu'on est la preuve que c'est dans un rapport de force que les choses vont avancer. Et qu'on est là pour créer cette espèce d'utopie au quotidien. La preuve, c'est qu'on arrive à quelque chose. Et donc... on n'a pas à se demander. Moi, je suis d'accord quand j'entends politiquement il y a une responsabilité politique et les politiques ne s'engagent pas. Ok. Sauf que quand même, la contradiction, c'est que parce que tout est contradictoire, c'est que ces familles-là, elles sont rayées de la carte, mais elles ont droit à la santé et elles ont droit à l'école. Donc c'est important, donc asseyons-nous là-dessus, appuyons-nous là-dessus, je veux dire.
Mais c'est une façon de s'appuyer. Pour le moment, vous vous appuyez.
Et puis avançons, quoi. C'est pas parce que les politiques ne nous soutiennent pas. Voilà, c'est ça, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution que d'être utopiste. Et donc d'avancer.
Qu'est-ce qui se passe officiellement? Vous parliez tout à l'heure de gamins au collège, donc de gamins qui s'intègrent complètement, qui font des études, qui risquent d'être brillants avant 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gamins-là à 18 ans? Est-ce qu'ils vont faire l'objet d'un raccompagnement aux frontières? Ou bien est-ce que le droit du sol pourra s'exercer pour eux, du fait qu'ils sont là depuis un certain temps? Ils vont continuer à être clandestins. Ceux qui sont nés en France. Ah oui, la condition c'est d'être né en France. À ce moment-là, ceux-là peuvent être au choix à partir de 16 ans.
On n'a pas le recul suffisant pour l'instant.
Non, ouais, c'est du temps encore.
En même temps, on génère aussi des situations difficiles parce que le petit frère qui va être né en France. Il va pouvoir rester le grand frère, la maman. Moi, j'ai été assistante sociale dans les banlieues. On arrive à des situations familiales humaines catastrophiques pour les gens. Ça crée des ruptures, ça crée des droits pour certains membres de la famille, des non-droits pour d'autres membres de la famille. Parce qu'ils ont cru que peut-être un jour, et puis en fait, peut-être un jour, non, la loi est là, il faut qu'ils dégagent, ou alors certains peuvent rester, d'autres non. Et c'est ça que je me demande, c'est que des fois, à vouloir, effectivement, on veut aider, on veut loger, et c'est normal, et c'est humain, et c'est bien de le faire. Mais en même temps, est-ce qu'à long terme, on ne crée pas des petites catastrophes humaines? J'en sais rien, j'ai pas de réponse. Mais je me dis juste que c'est difficile tout ça. Et qu'on n'est pas dans un état qui nous aide beaucoup, même à l'avenir.
Oui, moi je voudrais dire ceci. Si ces familles sont arrivées en France, c'est qu'elles avaient des raisons. Et bien souvent des raisons de survie. Parce qu'elles étaient menacées dans leur propre vie. Alors, bien sûr, on peut parler d'un drame peut-être dans 15 ans ou 20 ans, mais pour l'instant, le drame, il existe là-bas, entre guillemets, chez eux. Alors, donc voilà, ils sont là et ils ne rentrent pas chez eux. Donc, pour eux, c'est peut-être le moindre mal. Mais moi, je ne suis pas capable de parler pour eux. Je parle en fonction de ce que j'entends et je sais.
J'aurais un complément par rapport à l'OFPRA. Même si c'est un organisme indépendant, il a quand même les oreilles de l'État. C'est-à-dire qu'il fut un temps où il donnait le statut de réfugié à 80% des demandeurs parce qu'il y avait possibilité d'avoir ce 80%. Maintenant, ça tombe à 22, je crois. 22 pour l'année dernière. Donc c'est vrai qu'ils ont des critères qui sélectionnent beaucoup plus, que l'on peut trouver quelquefois aberrants. Dans d'autres circonstances, des prisonniers politiques, des réfugiés politiques, qui fuyaient parce qu'ils avaient le feu aux fesses, on leur demandait qu'ils montrent leur papier d'identité. Quand il y a la police qui vous court derrière, les papiers d'identité, s'ils sont dans une veste, vous passez par la fenêtre et puis vous appuyez. Donc ils n'avaient rien. Et quelquefois, on leur demandait s'ils avaient fait de la prison, qui c'est qu'il y avait dans d'autres cellules pour qu'ils fassent des recoupements, etc. Donc, en fonction de la période politique qu'il y a, il y a des critères que l'OFPRA applique et que son seul juge quoi, a appliqué.
J'ai posé l'autre jour la question au gars de la CIMAD, là, qui était à la conférence à Regard sur l'exil, de savoir s'ils avaient un numerus clausus. Il a répondu non. Non. La seule chose, c'est que ce que tu viens de dire, quand ils examinent les cas, ils sont plus rigides sur une façon ou une autre, ils vont creuser plus ou moins loin pour en arriver à être dans les clous. Voilà.
Oui, mais il y a quand même aussi les pays sûrs et les pays pas sûrs qui sont
fluctuants. Mais ça, c'est écrit dans les règles de l'OFPRA.
Mais c'est très fluctuant.
C'est variable dans le temps, mais par contre, administrativement, c'est défini. Donc les gens de l'OFPRA n'ont pas cette question à se poser à eux-mêmes. Par contre, quand ils posent des questions, ils ne les posent pas toutes sur nécessairement tout critère écrit. Mais à la fin, ils jugent que... Et ce que j'ai demandé aussi, c'était s'ils étaient plusieurs. Pratiquement jamais, les gens sont seuls devant un juge. Et quelquefois, ils peuvent être accompagnés, mais la personne qui les accompagne n'est qu'un témoin, elle n'a pas la parole. Donc il faut aussi qu'ils arrivent à s'exprimer. L'OFPRA a des traducteurs officiels de chaque langue qui leur fait une demande d'asile, mais c'est tout. Donc, quelque part, la question précise du numerus clausus écrit ne se pose pas. Par contre, le résultat, c'est qu'effectivement, il y a des fois où c'est 80%, où il y a des vagues qui sont admissibles, et puis, je ne sais pas comment il l'a dit, mais enfin, c'était un petit peu ça, hein. Et puis d'autres moments où il y a moins de vagues admissibles. Voilà. Oui.
Je ne sais pas si je peux...
Ah, mais vas-y.
Personne ne voulait vous lire... Vous lire la déclaration de Valls, puisqu'on parlait de schizophrénie politique. C'est une autre forme de schizophrénie, on croit, d'hypocrisie totale politique. Je voudrais vous lire une déclaration qu'a faite Valls au mois d'octobre, à l'inauguration du mémorial de Rivesaltes, qui est le mémorial de camp où ont été internés non seulement des républicains espagnols, mais tous les indésirables qu'il y avait à partir de 1941. Et donc ça a été inauguré au mois d'octobre. Alors c'est saisissant d'hypocrisie quand même. Hein. Je le lis. Hein. Imaginons un instant ces familles qui sont... J'oublie que Rivesaltes, entre 1998 et 2007, on a continué à enfermer justement tous ces étrangers en situation irrégulière en vue de leur expulsion, jusqu'en 2007. Il dit donc, imaginons un instant ces familles qui survivaient tant bien que mal, la faim, la maladie, il se rapporte aux années 40, la maladie, la vermine, le dénuement le plus total. Elles étaient entassées les unes sur les autres. Imaginons ces femmes, ces hommes, lucides sur leur sort, et donc rongés par les pires angoisses. Imaginons ces enfants, pleurant de fatigue, terrorisés par ce qu'ils voyaient dans le regard des adultes. Le quotidien, ici, fut terrible. Presque autant que ces euphémismes qui voulaient recouvrir la vérité d'un voile public, camp de rétention, camp d'internement, camp de regroupement, pensez aux expressions qu'on emploie aujourd'hui. Hein. Pourtant, derrière ces différentes expressions, il y eut une même réalité, un camp d'exclusion fait de mise à l'écart et de mépris total de l'humanité. C'était en octobre 2015.
Par le Premier ministre.
Ce qui caractérisait ce lieu, ce n'est pas seulement le regroupement, c'est l'ordre du mépris qui y régnait. La dignité, voilà ce qu'on voulait arracher aux personnes enfermées ici. Or, sans dignité, on n'est rien. Cette dignité, nous voulons la leur rendre aujourd'hui par cet hommage.
Wow. Vous voyez son discours. Enfin, il faut lui relire pour ce qui se passe aujourd'hui.
Non, c'est pas lui qui l'a écrit.
Certains sens de l'expression, voilà ce qu'il prononçait, donc, et la position qu'il a par rapport au.
Juste pour ajouter qu'en mai et juin 2015, je suis allée pendant un mois à Cornebarieux, à Toulouse, au centre de rétention, parce qu'il y avait le monsieur 2014, oui. Non, oui, oui, 2014. Le papa de la famille dont on s'occupait est resté là-bas pendant plus d'un mois, enfin pratiquement un mois.
Et donc, voilà, ça, ce discours pouvait très bien s'adresser à Cronenberg, c'était pareil.
Oui, vas-y.
Peut-être un mot sur des réflexions politiques de quel que soit le bord. Les hommes politiques ont une faculté monumentale à donner une information entre quatre yeux qu'il faut prendre pour vérité d'évangile. Un exemple, M. Sarkozy, il y a quelques jours, a mentionné que parmi les kamikazes de l'attentat du 13, il y avait une personne qui avait été arrêtée 8 fois et elle n'avait fait aucun jour de prison. Mais que fait donc la police ? Parce que quelqu'un qui est arrêté 8 fois et qui ne fait jamais de prison, il y a vraiment un problème.
Or, la justice, on pourrait même dire.
Oui. Or, cette personne a été arrêtée 8 fois entre 2000, je ne sais plus combien, 4 ou 5.
Entre 2004
et 2010. Je vois que nous avons la même lecture. Autant à l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur et président de la République. Et il a été arrêté 8 fois pour outrage, quand il avait moins de 16 ans, outrage, violence, conduite sans permis, récidive de conduite sans permis, c'est-à-dire que, et il a écopé 1 mois de prison avec sursis, avec peine aménageable. C'est-à-dire que on ne pouvait pas le mettre, on ne pouvait pas lui donner 15 ans de prison pour le mettre en sécurité, parce que d'après la façon dont il l'a dit, s'il avait été en prison, il n'aurait pas été dans les rues le 13 pour se faire écraser.
C'est bien que c'est du marketing politique.
Mais... Pardon ? Tout à fait. Mais comme c'était une récidive...
Et 8 fois, ça rentrait dans les 8 sans les avoir cités.
Voilà. Voilà. Donc, c'est, quand on a une phrase, il faut faire attention. Si on ne la recoupe pas, elle n'a absolument pas de sens. C'est un exemple.
J'ai un exemple qui illustre ce que tu as dit tout à l'heure, une contre-vérité, non pas ce que tu as dit toi, une contre-vérité à propos de. Et c'est Pierre Lelouch, qui est aussi c'est Lazare du Parti Les Républicains, et qui dans un éditorial, dans une chronique, je crois, disait que chaque demandeur d'asile touchait 734 euros, 714, alors que ces 714 euros, c'était pour une famille de 6, c'est-à-dire le père, la mère et 4 enfants. Il lui affirme tout au long d'un article que c'est 730 euros par personne. C'est une contre-vérité monumentale, mais c'est écrit sur la presse. Il y en a, et je ne parle pas de ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est horrible, c'est insupportable, mais ça, c'est des gens qui, logiquement, doivent avoir un sens de la responsabilité politique.
Mais c'est la méthode de Le Pen, hein. C'est la méthode de Le Pen. Manquer, il en restera toujours quelque chose.
Ça, tu te laisses le soin pour tirer tes conclusions.
On va être sauvé par le gong, comme disait l'autre. S'il y a d'autres questions, bon, Michel est là pour répondre. On pourrait peut-être arrêter ce soir-là. N'oubliez pas, d'abord, qu'il y a des papiers.